Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Debout Médor, regarde-moi que j'y vois ce que Dieu a à me dire. C'est un peu l'adresse très originale que nous invite à lancer à notre chien, notre invité de ce matin. Non pas un mystique de la cause antispéciste, mais un dominicain. Une sorte de guide pour homme aveugle que nous sommes, qui a choisi de passer par cet animal de compagnie par excellence pour nous parler de Dieu. Une promenade, tout à la fois à travers nos vies, à travers la Bible et évidemment au plus près de chez nous. Allez Médor, on peut y aller ? Mon chien me conduira-t-il au paradis ? C'est donc le titre de l'émission Vivante Église en ce vendredi et troisième jour de direct depuis Lourdes où se tient le pèlerinage du Rosaire. Nous sommes ce matin avec vous, Xavier Lepinet. Vous êtes dominicain et auteur donc de cet ouvrage intitulé Mon chien me conduira-t-il au paradis ? Point d'interrogation, paru aux éditions du Cerf. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, on est donc au pèlerinage du Rosaire. On va dire la fête bat son plein. Cette année, c'est un tour de force. Vous avez réussi à réunir 10 000 personnes, ce qui est à peu près la moitié des effectifs.
Nouvelle, oui.
Les responsables du sanctuaire disaient ils ont du courage, les dominicains. Ils ont été culottés parce qu'ils y ont cru, ils ont pris date, ils se sont engagés, ils ont même payé quand d'autres n'osent pas tenter cette aventure. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire du peu que vous avez vu de ce pèlerinage ? Il est bon de se retrouver ?
Oh oui, bien. La foi déplace les montagnes et les cœurs. Les personnes avaient vraiment besoin de se retrouver après une année et demie, voire deux ans très éprouvants. Et donc là, le rendez-vous à Lourdes est baigné d'émotions. Le soleil est au rendez-vous, merveilleux. Voilà, donc il y a une attente d'une parole pour ce temps difficile que nous vivons de part et d'autre.
Alors, on peut dire aussi aux auditeurs que, où qu'ils soient dans notre zone de diffusion, ils peuvent encore vous rejoindre pour ce pèlerinage de Lourdes qui finira donc demain dans l'après-midi. Alors vous, vous avez donc écrit cet ouvrage, pas forcément à l'occasion de ce pèlerinage du Rosaire, mais en tout cas vous en parlez à l'occasion de ce pèlerinage du Rosaire. Hier, vous aviez une séance de signature, donc même dans la librairie de ce sanctuaire. C'est un titre original, « Mon chien me conduira-t-il au paradis ?» Point d'interrogation, vous êtes venu avec votre chien ou pas ?
Ah, je n'ai plus de chien. J'ai eu un chien dans mon enfance, mais vous savez, avoir un chien en communauté, c'est difficile, voire pas possible, parce qu'un chien a besoin d'un seul maître. Ce qui fait que si on mettait un chien dans une communauté, c'est lui qui désignerait le chef, et ce qui ne serait pas forcément du goût de tout le monde. Donc un chien, un maître, et donc on ne possède rien en communauté, donc pas de chien. C'est comme ça.
Alors, les auditeurs ne la voient pas, il y a une très belle photo de couverture qui est donc une personne sans domicile fixe que l'on voit avec un chien qui n'a pas croisé quelqu'un comme ça dans sa vie. Avec ce chien, on a l'impression que ce chien est presque quelqu'un pour lui, avec des échanges de regards qu'on imagine parfois intenses. Ça peut paraître un peu décalé pour chacun d'entre nous. On se dit quelque part, il se rattrape sur un chien parce qu'il n'a plus rien d'autre. Et vous, en fait, le propos de votre livre, si vous deviez le résumer au début pour nous mettre en appétit, c'est qu'en fait, il y a peut-être quelque chose de très profond qui se joue là.
Exactement, c'est-à-dire je prends au sérieux la relation homme-chien et en fait je m'imagine les personnes qui aiment leur chien et qui aiment Dieu et qui ne savent pas quoi faire de leur chien, de leur vie spirituelle. Ils disent mais mon chien est important, mais comment je le place dans ma prière, etc. Et tout mon propos, c'est en revisitant la tradition biblique, les spirituels, de dire en effet, il se passe quelque chose d'important et votre chien est un don de Dieu. Et j'ai la conviction que beaucoup savent que sans leur chien, ils seraient moins bien, quoi. Leur chien les élève, chien ou chat.
Alors, on va y revenir, puisque à vous lire même, on peut trouver dans le regard de son chien presque parfois des interrogations. On va venir au témoignage, entre autres, de Pierre, qui vous a pas mal secoué, dont vous parlez dans cet ouvrage. Mais j'aimerais juste que vous disiez un mot. Pourquoi le chien... Le chien plus qu'un autre animal de compagnie, il y a vraiment une différence.
Oui, il y a une différence historique, c'est-à-dire le chien et l'homme, c'est une histoire vieille de au moins 20 000 ans et peut-être même 100 000 ans. C'est-à-dire on a trouvé des tombes avec des hommes et des chiens côte à côte de moins 100 000. Donc l'adoption du chien, c'est très très ancien. Celle du chat, en fait, c'est assez récent, c'est moins 8 000 seulement. Le chien, moins 20 000, voire moins 100 000. Et comment ça serait né ? C'est un échange de bons procédés, de services. L'homme donnant à manger au chien, qui était avant tout un loup, un canis lupus, un chien sauvage. Et puis petit à petit, ils se sont entendus et le chien finit par rendre service en gardant le troupeau, etc., etc. Le chat est plus difficile à domestiquer. Hein, il s'approche, mais il reste, sauf pour les Égyptiens qui ont réussi à l'adopter pour chasser les rats de leur bateau.
Mais ça dit quelque part qu'il y a une forme aussi d'intelligence supérieure chez un chien. Est-ce qu'on peut dire ça?
Une intelligence émotionnelle évidente. Hein, ça, Lamartine, notre grand poète romantique, dit « Là où il y a un malheureux, Dieu envoie un chien ». C'est-à-dire qu'il y a une forme de feeling du chien sur les émotions de l'homme. Et vous voyez, un point tel qu'aux États-Unis, on a même formé des chiens qui avaient déjà cette capacité à rentrer dans les tribunaux pour faire parler des victimes qui sont submergées par l'émotion. Et le chien, lui, tout de suite perçoit ça. Il va vers la victime et il se love à ses pieds. Et du coup, l'homme, la victime reprend confiance et arrive à s'exprimer. Donc c'est le chien et l'homme, c'est vrai, vous avez parlé de regard, c'est tout à fait vrai. Hein. Moi, il y a une expérience qu'on m'a racontée plusieurs fois, c'est l'adoption d'un chien. C'est, en fait, qui adopte qui? On va dans une SPA, et puis on s'est regardé, et le chien m'a choisi comme maître. C'est-à-dire, dans cet échange de regards, c'est pas moi qui arrive comme dominateur sur l'animal en disant « je le veux », c'est le chien qui me dit « c'est toi qui seras mon maître ». Donc là, il y a un échange de regards extrêmement signifiant. Hein. Écoutez, je vais citer un autre poète français, Paul Valéry, qui dit « tout le chien est dans son regard ». Et un regard de chien, c'est quelque chose de très troublant. Ça renvoie à ma propre responsabilité.
Alors venons-y, parce qu'il y a donc une personne que vous avez croisée au long de votre vie, ouais. Qui s'appelle Pierre, qui a un jour eu un regard de son chien qui a fait basculer en partie sa vie. Vous rapportez donc son témoignage, vous le citez, hein, « Je m'appelle Pierre, je suis un sourd de naissance. Je n'entends même pas les bruits, pas les chants des oiseaux et les cris des animaux sur notre terre. » Et donc cet homme a un chien et va se promener régulièrement avec lui. Et puis un jour, le 20 avril 2002, son chien le regarde. Racontez-nous ce qui vous en a dit.
C'est une histoire fabuleuse. Hein. Il vient d'adopter son chien. En fait, c'est tout au début de son histoire. Donc il le garde pendant une semaine à la maison, ce qu'il faut faire pour dresser un chien. Et première promenade à la campagne. Pierre part avec son chien, Boomer. Et au bout de 300-400 mètres, son chien s'arrête devant lui, le fixe. Au point que Pierre, qui est sourd, hein, dit « il y a quelqu'un derrière moi ». Donc il se retourne une fois, deux fois, et dit « non, il n'y a personne, mais je sens qu'il y a quelqu'un, vu le regard de ce chien ». Ils se sont fixés entre 3 à 5 minutes.
Donc le chien le regardait lui ?
Lui.
Ou le chien regardait quelqu'un à côté de lui ?
C'est ça qui est troublant, c'est que le chien regardait Pierre, et Pierre s'est dit « il me regarde parce qu'il y a quelqu'un derrière moi ». Et donc, ils se sont fixés entre 3 à 5 minutes.
3 minutes, ce qui est très très long. Ce qui est très très long. C'est-à-dire qu'il restait immobile, il le regardait.
Exactement. Donc un échange de regards. Et à un moment, Pierre, qui est sourd, hein, entend en lui cette phrase « viens et suis-moi ». À ce moment-là, la queue du chien se remue, il se lève et il part. Donc il suit son chien, bouleversé par cette parole « viens et suis-moi ». Et son chien, il arrive chez lui. Et à ce moment-là, son épouse, qui est malentendante, a le diocèse au téléphone, qui appelle pour créer une pastorale des sourds sur le diocèse. Et de fil en aiguille, Pierre est devenu diacre. Donc vous voyez, c'est très, très, très mystérieux, c'est-à-dire un appel via le chien et ensuite via l'église qui dit « voilà, on voudrait créer une pastorale » et puis Pierre est devenu diacre.
Alors on imagine que, est-ce que vous le connaissiez bien, il vous en a parlé tout de suite parce qu'il a dû se dire qu'il était devenu un peu dingue, non ?
Non, il en a parlé plusieurs années après et après moi je l'ai interrogé pour avoir tous les détails. Je suis allé sur place, j'ai vu où était ton chien, où étais-tu, ça s'est passé comment. Donc c'est une histoire merveilleuse. Hein.
Alors dans ce que vous dites, il y a deux choses qui traversent un peu votre ouvrage. On va me dire, on donne un peu la conclusion du bouquin au début, mais moi ça nous met en apéritif. Que j'ai compris, c'est qu'en fait, le chien, par l'intensité ou la qualité de son regard, vous préciserez mes propos et vous avez commencé à le dire, quelque part, révèle l'homme à lui-même, et voire même parfois, les chiens, comme d'autres animaux, en fait... serait comme sensible à la présence de Dieu. C'est ce qu'on entend dans ce que vous dites. Est-ce qu'on peut expliciter ces deux réalités ?
Il y a deux choses. C'est d'abord, le chien nous donne une place, une responsabilité. C'est-à-dire, on sent qu'on est quelqu'un pour un être animé, un être vivant. Et puis la deuxième, c'est très étonnant ce que vous dites, c'est comme si le chien voyait, dans Ulysse, dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse revient chez lui, après 20 ans, les chiens vivent rarement autant que ça, et il y en a un seul qui le reconnaît, c'est le chien. Personne dans son entourage ne le reconnaît. Et Homer dit, Athéna était là, et le chien voyait Athéna. Donc le chien, c'est Argos. Hein. Donc comme si dans la littérature occidentale, il y avait vraiment cette conviction que le chien et l'homme et sa cosmologie globale étaient prises en compte.
Ça, c'est donc le chien qui nous regarde et qui nous donne de l'importance, c'est ça? Et
oui.
En plus, le chien qui est capable de l'invisible, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est-à-dire qui voit l'homme dans sa relation avec Dieu. Moi, j'ai une théorie, j'ai pas mis cette phrase-là dans le livre, je le regrette, donc je le dis maintenant à la radio. C'est le chien aime l'homme qui aime Dieu. C'est-à-dire, le chien attend que l'homme se tourne vers Dieu. Plus l'homme se tourne vers Dieu, plus le chien l'aime. C'est-à-dire, ah, enfin! Homme, tu te tournes vers notre Créateur. Et donc là, je pourrais donner d'autres exemples.
Alors, on va y venir parce que j'ai une manière de vous relancer là-dessus. C'est que vous utilisez de temps en temps la fameuse expression donc, de Laudato Si, du pape François, tout est lié.
Tout est lié.
Et à vous lire, c'est ceux qui sont, on va dire, un petit peu plus connaisseurs de la vie de l'Église et entre autres, par exemple, des Pères du Désert. C'est comme si, en fait, donc, la création attend quelque chose de l'homme. Et quand l'homme se divinise quelque part, aussi la relation à l'animal est transformée.
Exactement. Ben, c'est Saint François d'Assise avec le loup de Gubbio. Donc rapidement, il y a un loup qui terrorise une petite ville, Gubbio en Italie. Et Saint François sort de la ville, va voir le loup, lui fait un sermon. Le loup baisse la tête, lui tend la patte. Et Saint François dit, à partir de maintenant, tu seras gentil avec les gens du village qui vont te nourrir. Donc quand un homme, vous et moi, se retrouve en sympathie, en communion avec un animal, il y a quelque chose un peu du paradis retrouvé. C'est-à-dire, là où les animaux nous semblent hostiles, là, d'un coup, il y a une forme d'harmonie. Hein. Et quand un homme et un chien, ou un homme et un chat sont en communion, il y a un peu l'harmonie du paradis. C'est-à-dire, l'homme au milieu du cosmos, mais parfaitement en paix, sans rivalité.
Et comment est-ce qu'on peut le comprendre? Alors, je ne sais pas, peut-être parce que quand vous êtes dominicain, vous arriverez peut-être à rendre compte en raison de ce qui semble être aussi soit une expérience, comme
oui.
Vous dites, dans la vie de certains saints, soit une réalité. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est-à-dire, en fait, comme le monde animal et le végétal auraient comme une forme de sensibilité spirituelle?
Tout est lié. Donc, effectivement, c'est le leitmotiv de Laudato Si, c'est-à-dire un acte humain a des répercussions sur le monde, qu'on le veuille ou non, hein, bien ou mal. Hein. Donc, le monde est un jardin. Maintenant, on en prend conscience. C'est-à-dire, tout le monde est lié. C'est-à-dire, si je mets des pesticides à tel endroit, ça ne peut pas ne pas avoir de conséquences sur la suite de la création. Donc, on sait depuis peu aussi que les arbres communiquent entre eux. C'est-à-dire, quand il y a des dangers pour tel arbre, on se communique par les racines, etc. Donc, la création n'attend qu'une chose, c'est un ordre. Hein, quelque chose où chacun peut avoir sa place. Et l'homme, trop souvent, s'est comporté dans le monde en terrain conquis et non pas en jardin donné.
Mais ça veut dire que, y compris le monde végétal et animal, en fait, aspire à,
oui,
est tendu vers Dieu quelque part.
En fait, vous citez Paul. Hein, c'est Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 8. C'est la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu, car elle-même elle se trouve soumise au néant et elle attend de voir sa libération. C'est-à-dire, la création tout entière voit bien qu'elle tend vers le néant, hein, qu'il y a une perte. Et elle attend la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire l'homme qui se tourne vers la vie éternelle, qui est Dieu. Et le chien est un peu l'ambassadeur de la création, vous voyez. C'est celui qui va pouvoir communiquer, non pas au nom de tous les chiens, mais au nom du monde, en disant « Ah, homme, quand tu te tournes vers Dieu, c'est tellement bien ».
Pour finir, avant qu'on fasse une première pause musicale et pour continuer de nous persuader de la validité de votre propos, vous employez les grands moyens, on va dire en un lieu comme celui de Lourdes, on comprendra. Vous êtes allé chercher du côté des apparitions, donc avec un titre un peu provocateur, en tout cas qui réveille, que faire de son chien pendant une apparition mariale. Et donc vous parlez entre autres de l'apparition de La Salette, donc 19 septembre 1846. J'avoue que je connaissais cette apparition, j'ai même fait des reportages là-bas, mais je n'avais pas noté qu'il y avait un chien. Racontez-nous cette histoire et resituez peut-être en deux mots ce qu'est cette apparition de Notre-Dame de La Salette.
Alors c'est une apparition à deux enfants sur les alpages, deux enfants un peu sauvages, hein, Maximin 11 ans, Mélanie 14 ans, rejetés par leur famille, et ils vont garder quatre vaches. Et il y a le chien de Maximin qui s'appelle Loulou, hein, donc c'est enfin un terme de loup, mais un loup apprivoisé, c'est Loulou, qui est un chien aussi nerveux que son maître. Or, pendant l'apparition...
Aussi nerveux que son maître.
Oui, Maximin est un, on l'appelait, mouvement perpétuel, incapable de tenir en place. C'est une forme de nervosité maladive, hein, la bougeotte, hein, quoi, comme on dit. Un petit garçon qui a perdu sa maman très tôt, qui est sauvage. Quoi, ça. Et, donc ce mouvement perpétuel, Maximin, quand la Vierge apparaît, se calme et puis écoute la Sainte Vierge, et le chien pareil. Alors, deux prêtres ont interrogé en disant mais votre chien, il n'a pas aboyé contre la Sainte Vierge ? Ah ben non. Et pourtant, il aboie. Ah ben, d'habitude, il est très méchant. Il aboie contre tout le monde. Même quand une feuille d'arbre bouge, il aboie.
Et il se couche là.
Et là, il se couche. Et Maximin a fait le mime. Il a levé la tête. Il a regardé. Pouf. Et il s'est recouché. Et là, ça pendant une demi-heure. L'apparition dure une demi-heure. C'est donc Marie qui apparaît en pleurs, etc., qui dit aux hommes si les hommes se convertissent, les pierres deviendront des pains. Donc vous voyez, tout est lié. Quand les hommes se convertissent, les pierres, donc c'est-à-dire les terres arides, pourront devenir des moissons abondantes. Ils ne peuvent pas tenir une charrette sans injurier les animaux et en mettant le nom de mon fils au milieu des injures. Donc c'est les charretiers qui disent « avance, sale bête », etc. Mais avec un nom, le nom de Dieu au milieu. Et bien là, ces deux enfants, qui trouvent enfin leur maman devant eux, et bien le chien de Maximin, tout de suite se met au pied. Alors j'étais allé moi-même faire mon enquête, déjà avec même, je voulais voir comment ça se passait. J'arrive sur le lieu de l'apparition, et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois un homme avec son chien en train de prier. Je lui dis, bingo, c'est ce qu'il fallait. Et ça, c'est une image qu'on ne voit pas à Lourdes. Sauf les chiens d'aveugles et les chiens d'handicapés. À Lourdes...
Lors des apparitions à Lourdes, il n'y avait pas une histoire de chien ?
Non. Bernadette avait un chien, Pigou.
Mais il n'était pas là.
Il n'était pas là. Hein, donc, il n'y a pas d'animaux, enfin, si ce n'est les oiseaux, etc. Et... alors, si jamais on disait à ce monsieur, écoutez, on est dans un sanctuaire, vous mettez votre chien à l'entrée, lui, il n'avait qu'à montrer à quelques pas la statue en disant, mais et lui, il fait quoi ce chien-là ? Il y avait bien un chien à l'apparition. Moi, j'y ai droit aussi.
On va faire une première pause musicale et puis on va retrouver pour parler de ce livre déconcertant, mais qui nous rejoint profondément, probablement, en tout cas pour beaucoup d'auditeurs.
Oui,
mon chien me conduira-t-il au paradis ? Point d'interrogation paru aux éditions du Cerf.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Mon chien me conduira-t-il au paradis ? Point d'interrogation, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, à partir du titre d'un ouvrage de mon invité, donc Xavier Lepinet. Vous êtes religieux dominicain et auteur de d'autres ouvrages, mais en tout cas c'est celui-là que l'on parcourt ce matin, paru donc aux éditions du Cerf. C'est un titre original pour un propos original. On peut dire aussi à nos auditeurs que nous sommes en direct de Lourdes, où se déroule donc le pèlerinage du Rosaire, le pèlerinage 2021, où il y a à peu près 10 000 personnes, et il est encore temps de rejoindre tous ces pèlerins dans ce lieu extraordinaire avec où sont son chien. Si on fait un petit détour par les Écritures, c'est ce que vous faites dans votre livre. Comment ne pas commencer ? Pour ceux qui sont familiers des Écritures, ça ne les surprendra pas, et d'autres découvriront cette histoire magnifique, par le livre de Tobie, l'intitulé du chapitre de votre chapitre. Donc c'est à bonhomme bon chien, non ? Ou je crois que je choisis... Non,
c'est un trio inséparable.
Voilà, c'est ça, un trio inséparable. L'ange, l'homme et le chien. Alors racontez-nous en deux mots peut-être l'histoire de Tobie dans ce livre pour ceux qui ne l'auraient pas parcouru.
Oui, mais écoutez, comme prêcheur, les Écritures, c'est effectivement notre trésor. Hein. Donc je suis allé voir le chien de la Bible. Et là, ma surprise en fait a été non pas l'homme et le chien, mais l'ange, l'homme et le chien. Alors le meilleur exemple, c'est effectivement Tobie. C'est Tobie qui est envoyé par son papa chercher de l'argent au fin fond de la Perse, donc un voyage dangereux. L'ange Raphaël arrive en disant « Je connais les chemins, vous inquiétez pas, donc je peux l'accompagner. » Donc
l'archange même.
L'archange Raphaël. Et ils partent, et là la Bible ajoute « Et le chien suivi derrière. » Ils font leur périple, ils arrivent plein d'aventures, ils reviennent à la maison, et le chien lui suivait.
Donc c'est pas un chien, vous notez, c'est le chien.
C'est le chien, et on ne sait pas d'où il vient. En fait, il déboule. C'est un chien errant comme ça qui arrive et qui revient à la maison. Alors ce qui est très intéressant, c'est que la version de Saint Jérôme, quand il a traduit ce passage, il n'a pas dit « et le chien suivait », mais il a dit « et le chien les précédait, agitant la queue pour montrer sa joie ».
Et à droite, d'ailleurs, je notais.
À droite.
Ça quand ouais. Il agite la queue à droite, c'est.
C'est ça, vous avez bien lu, ça, c'est scientifique. Donc, j'invite les auditeurs qui ont un chien. Si le chien que du côté droit, c'est bon signe. Côté gauche, c'est une petite angoisse, en fait. Et donc, c'est le chien qui précède et qui annonce aux parents éplorés qui pensent que leur fils est mort en disant. Si je reviens, c'est que votre fils arrive derrière.
Et qui ? Il précède aussi l'ange.
Il précède l'ange. Et c'est lui qui annonce. Donc, il a une fonction angélique. C'est lui qui donne la bonne nouvelle. Vous voyez, c'est la queue du chien qui va dire « Vous inquiétez pas, votre fils, qui est mon maître du voyage, est en train de suivre. » Donc, ce qui est intéressant, c'est que avec l'ange, l'homme et le chien, on a une forme de concentré du cosmos. Vous voyez, on a les êtres spirituels, les anges, qui s'occupent de l'homme. Il y a l'homme entre les deux, et puis il y a l'animal, dont l'ambassadeur, là, est le chien. Et ces trois centres gardent, c'est-à-dire l'ange garde l'homme garde le chien, mais le chien aussi sert de service à l'homme. Donc cette triade, on la retrouve ailleurs dans les évangiles, en fait.
Avant que vous en parliez, peut-être, vous notez que ce chien a l'air un peu désinvolte.
Oui.
C'est-à-dire qu'à vous lire, en fait, si on scrute donc, ce passage des Écritures, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans les Écritures où il y a ce sentiment à propos du chien, mais il est comme, on va dire, très assuré, en fait.
Ah, complètement. Alors que tout le monde panique dans l'histoire, sauf l'ange et le chien. Tout le monde pleure, on dit jamais on va y arriver, c'est de l'angoisse, etc. Et lui dit, vous inquiétez pas, ça, tout va bien se passer. Le livre Tobie, de toute façon, c'est le grand livre de la Providence. Et alors ça, c'est ma conviction, c'est que je voudrais partager à nos auditeurs, c'est le chien de votre vie est un don de Dieu et providentiel. Et vous le savez, c'est-à-dire, vous savez très bien que sans votre chien, votre vie serait plus triste. Donc, votre chien a déboulé dans votre vie. Vous l'avez adopté, mais c'est lui aussi qui vous a adopté. Et tout animal de compagnie est providentiel. C'est pas un dû.
Vous avez une expression, je sais pas si elle est de vous, « the right dog at the right place ».
Elle est de moi.
Oui.
Donc c'est une parodie de la formule anglaise, hein, c'est « the right man at the right place », c'est-à-dire le bonhomme au bon endroit, donc c'est l'homme qu'il faut. Hein. Eh bien, le chien, dans nos vies, il a parfaitement trouvé sa place. Quelle que soit l'originalité de nos vies. Il a une capacité d'adaptation et il ne l'a pas trouvé tout seul. C'est le bon Dieu qui nous a envoyé ce chien pour nous mener là où il a envie de nous mener. D'où le titre « Mon chien me conduira-t-il au paradis ?» Mon chien m'envoie des signaux quand même sur là où je devrais être. Oui.
Avant que vous parliez peut-être d'un autre épisode dans les Écritures, en l'occurrence c'est donc l'histoire de Lazare, cette fois c'est dans le Nouveau Testament, vous nous rappellerez aussi pour ceux qui par hasard n'ont pas ça en tête de quoi il s'agit, mais il y a combien, vous avez cherché les nombres d'occurrences où on parle de chiens dans les Écritures?
Oui, il y en a 25, ce qui n'est pas énorme.
C'est-à-dire il y a 25 chiens différents quelque part
C'est plus complexe que ça, c'est-à-dire il y a des vrais chiens réels et il y a beaucoup d'hommes qui se font traiter de chiens. Et quand on traite un homme de chien, surtout en Orient, où le chien est un animal vil, méprisé, c'est pour ça que Toby est exceptionnel. C'est-à-dire, c'est un chien oriental qui manifestement a voulu être très sympathique sous la plume de l'écrivain. Donc, quand on traite un homme de chien, on lui dit « tu n'es pas à ta place d'homme, tu redescends à une place d'animal ». Et ne soyons pas non plus idéalistes, il y a des chiens cruels. Et donc, dans les psaumes, le chien, c'est celui aussi qui va lécher le sang de mes ennemis, c'est-à-dire celui qui est cruel.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, que c'est le regard de l'homme sur le chien ou c'est l'homme qui rend le chien mauvais? Parce qu'à vous entendre, les chiens seraient presque bons en eux-mêmes, c'est ce qu'on a l'impression d'entendre depuis le début de l'émission.
Oui, alors... Oui et non. J'ai un chapitre intitulé « À bon homme, bon chien ». C'est-à-dire le chien est aussi à l'image de son maître. Et je n'ignore pas qu'il y avait des chiens à Auschwitz. Voyez, et ceux-là, il ne fallait pas les caresser. Et donc le chien, ce qui le caractérise, c'est cette fidélité implacable.
Pour le meilleur et pour le pire.
Oui, pour le meilleur et pour le pire. Et inconditionnel. Donc c'est fabuleux, mais « À bon homme, bon chien ». Là aussi, j'ai repris un proverbe français, c'est « À bon chat, bon rat ». Mais une forme de complicité entre le chat et le rat, mais à bon homme, bon chien, c'est-à-dire si l'homme est bon, le chien sera bon.
Mes excuses auprès des auditeurs, je tousse, mais vraiment je ne peux pas faire autrement.
Un chat dans la gorge.
Un chat dans la gorge. C'est un début. Alors, Lazare, cette fois c'est dans les évangiles, c'est donc ce pauvre qui se tient à la porte d'un riche, et pour ceux qui n'auraient pas noté, le passage qui parle des chiens, les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Rappelez-nous cette histoire.
Ah oui, c'est Luc chapitre 16, c'est une des paraboles les plus percutantes de Jésus. Je dis ça percutante parce que c'est la seule où... l'un des personnages est prénommé, donc un pauvre nommé Lazare, or que le riche, lui, n'a pas de nom, il est simplement appelé le riche. Un riche est à un banquet, à un grand festin, il est vêtu de soie, et à sa porte se trouve un pauvre qui aimerait manger ce qui tombe de la table. Mais rien, personne ne lui donnait rien, et les chiens léchaient ses plaies. Alors là, il y a toute une question, est-ce que c'est comble de la détresse, en plus des chiens viennent le lécher? Ou au contraire, le riche, lui, ne s'occupe pas du pauvre, mais les chiens, eux, lèchent en vertu médicinale ses plaies. Alors, il y a un peu deux points de vue. Il y a les pères de l'Église de l'Orient vont dire, vous voyez, comble du malheur, en plus il y a des chiens qui lèchent ce pauvre homme. Mais toute la tradition occidentale, qui est plus favorable aux chiens, va dire, mais non, on sait très bien que la salive du chien soigne les blessures. Or, Luc... l'évangéliste qui raconte cet épisode, est médecin. Donc un chien qui lèche un pauvre, en fait, ce sont des bons chiens. Ce sont des chiens thérapeutes. Et donc là, ça fait une parabole extrêmement forte, c'est-à-dire il y a un riche qui ne s'occupe pas du pauvre, mais eux, les animaux, s'en occupent. Donc vous voyez, et le riche va ensuite aller en enfer, et il va demander à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue. Donc d'un côté, il y a les chiens qui ont léché pour soigner le pauvre Lazare, puis d'autre, le riche qui maintenant a la langue toute sèche. Quoi.
Alors vous avez une expression, je crois qu'elle n'est pas de vous cette fois, non, c'est de Lamartine. Partout où il y a un malheureux, oui. Dieu envoie un chien.
Oui.
Et alors, chose incroyable que j'ai découvert dans votre livre, donc c'est cette étude de ce fameux écrivain reporter Jean Rollin, qui a écrit un livre, Un chien mort après lui. Et à raconter l'enquête qu'il a faite.
Oui, alors c'est un grand reporter mondial qui a parcouru les mégalopoles du monde, donc Buenos Aires, Mexico, New Delhi, etc. Et pour faire son enquête sur la pauvreté humaine, il a simplement suivi les chiens. Et il arrive à chaque fois...
Les chiens errants.
Oui, les chiens errants. Donc ils n'ont pas de maître, qui vont en chercher un, et ils vont le chercher du côté des pauvres. C'est-à-dire, il y a une forme de feeling du chien pour repérer les personnes malheureuses. Et ça, tous les propriétaires de chiens le savent. Hein, que le chien perçoit notre qualité d'être et d'âme au moment X où on arrive à la maison. Hein,
Vous avez trouvé d'autres études où vous ne citez que celle-là à dessin ou...
D'autres études...
Parce que c'est très troublant quand même, c'est sûr, comme affirmation.
Y a une étude historique hein, qui montre que le chien est venu à l'homme pour prendre les restes de repas. Et les pauvres, c'est ce qu'ils vivent. Ils vivent des restes de repas. Donc, comme le pauvre Lazare, les chiens aussi attendaient que quelque chose tombe de la table. Vous voyez, des miettes qui tombent de la table. Donc, les chiens ont senti que chez les pauvres, il y avait toujours un partage de pain possible. C'est ça qui est extrêmement troublant. C'est-à-dire, et aller chez les riches, pour un chien errant, ce n'est pas très intéressant. Il sait qu'il n'y aura rien au bout.
Alors, pour ceux peut-être qui, à ce moment-là de l'émission, on me dirait, on a pu avoir cette impression avant, mais puisque je l'ai, je me permets de vous l'envoyer en toute simplicité. Hein. Mais pour ceux qui diraient, bon, il va un peu loin, notre Dominicain, ce matin, est-ce qu'on peut trouver quelque part des... Enfin, vous l'avez dit dans la première partie, mais est-ce qu'éventuellement, vous pouvez étayer votre propos pour un croyant, quel fondement théologique il y a à ce que vous dites? Je ne sais pas, vous, par exemple, vous êtes dans votre famille spirituelle, il y a un immense théologien qui est Saint Thomas. Saint Thomas parle justement de la relation homme-animal et qu'est-ce qu'il en dit?
C'est intéressant. Thomas dit Dieu est relation. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc à l'intérieur de Dieu, on est sans cesse en relation les uns avec les autres. Or, l'homme est à l'image de Dieu. Donc l'homme est fait pour la relation. Et il est fait pour la relation avec tout être vivant. Et s'il n'est pas en relation avec tout être vivant, il n'est plus un homme. Hein? Donc Thomas va dire, l'insensibilité est un péché. Le fait d'être pas sensible à la misère d'autrui ou du cosmos, c'est un péché. Quand on vit en autarcie, en disant, après moi le déluge. Je reprends la phrase du pape, tout est lié. C'est-à-dire, et l'homme qui refuserait ce lien avec son entourage, animal, végétal et bien sûr humain, est en manque d'être. Hein.
Alors, vous parlez aussi de figures de saints. C'est le moment de citer un certain Saint Roch.
Ah, Saint Roch.
Voilà. J'avoue que je ne connaissais pas cette histoire. Montpellierin. Non plus. Et là, c'est un chien qui va guider un certain Gothard, vers la sainteté. Hein. Oui. Racontez-nous cette histoire de Saint Roch, ce saint qui venait en aide aux plus pauvres.
Ah bah écoutez, je pense que c'est le chien le plus présent dans nos églises. C'est dans nos églises où vous voyez un homme avec un chapeau de pèlerin de Saint-Jacques qui montre sa cuisse avec un bubon de peste et un chien à ses côtés avec une miche dans la gueule. Je pense que vous avez cette image en tête. Alors, l'histoire de Saint Roch, c'est un pèlerin qui soigne des pestiférés, qui lui-même devient pestiféré.
14e siècle, donc.
14e siècle, on est à la fin du Moyen-Âge.
Donc, ce n'est pas une légende, hein, c'est un saint qui existait.
C'est un saint qui existait, mais son récit, c'est très légendarisé, on va dire. Il y a une écriture qui s'est faite après sa vie. Donc, lui-même va se cacher en forêt avec sa peste. Et là, la ville voisine, il y a un riche, et le chien vole du pain tous les jours et s'en va dans la forêt. Au bout d'un moment, ce riche, Gothard, dit « Mais où va mon chien avec mon pain ?» Donc il suit le chien dans la forêt et là il découvre ce spectacle d'un chien qui donne du pain à un pauvre. Et là Gothard se dit « Lui, être non raisonnable, arrive à être miséricordieux vis-à-vis d'un pauvre et moi j'en serai incapable. » Donc il se convertit. Et en fait, Saint Roch, c'est la parabole du riche et du pauvre Lazare qui finit en happy end. Enfin, le riche, grâce au modèle du chien, se convertit.
Il y a aussi une histoire d'ange.
Oui, tout à fait. Hein, dans la représentation, il y a un ange qui va soigner Saint Roch de sa blessure. De fait, il va devenir, être guéri de la peste.
Alors vous dites aussi que Gothard se mit au service de Roch et entendit la voix d'un ange parler à son compagnon lui annonçant sa prochaine guérison et la reprise de la route.
Oui, l'homme, l'ange et le chien. Et au milieu, on peut ajouter « et le pain ». C'est là où, vous voyez, où je dis « le chien aime l'homme qui aime Dieu » ou je pourrais aussi traduire « le chien aime l'homme qui aime son prochain ». Donc, vous voyez, nos chiens sont sensibles à nos relations avec notre voisinage. Si vous êtes en bisbille avec votre voisin, le chien va embrayer. Mais si vous êtes en bonne intelligence, en bonne relation avec votre voisin, etc., le chien, lui, va décupler cette capacité-là.
Est-ce que vous pouvez parler un peu plus du coup du chien et de l'ange? Parce que ce qu'on a l'impression, ce qu'on pourrait se dire peut-être en vous entendant aussi, c'est que notre chien est là aussi pour nous rappeler qu'on a un ange peut-être, non?
Oui, ou qu'on est fait pour le ciel, tout simplement, hein, qu'on est fait pour le paradis. Mais écoutez, je vous donne un exemple, c'est Maritain.
Jacques Maritain,
grand philosophe.
Il a passé du temps à Toulouse.
Il a passé du temps, oui, il a fait ses études à Toulouse, à l'ombre des Dominicains d'ailleurs, je crois. Jacques Maritain avait un pouvoir sur les chiens. C'est-à-dire, sa nièce avait un chien très nerveux, là aussi, et quand Maritain venait, le chien se calmait et se mettait à ses pieds. Alors, au bout d'un moment, la nièce qui n'arrivait pas à maîtriser son chien lui dit « Mais enfin, mon oncle, comment ça se fait quel pouvoir vous avez sur les chiens ?» Et le Maritain, grand philosophe, spécialiste du Moyen-Âge, répond « Ton chien, c'est peut-être que moi, je peux prier l'ange qui veille sur son espèce. » C'est-à-dire, c'est de la théologie médiévale.
On répète la phrase peut-être. Tes chiens savent peut-être, me disent-ils, que je peux prier l'ange qui veille sur leur espèce.
Oui. Alors j'explique effectivement cette phrase un peu étonnante. C'est dans la théologie du Moyen-Âge, il y a des anges qui veillent sur l'espèce chien, l'espèce chat, l'espèce papillon. Donc les anges étant chargés de garder le vivant, hein, de protéger le vivant. Et donc, ton chien, c'est peut-être que je peux prier l'ange qui veille sur son espèce. Là, on a une forme de circularité. C'est le chien demande à l'homme de prier l'ange qui protège les chiens. Donc, l'homme étant, si vous voulez, la charnière entre le monde matériel et le monde spirituel. L'homme n'est ni ange ni bête, hein, comme dit Blaise Pascal. Et donc, quand l'homme retrouve sa place entre la bête et l'ange, eh bien, il y a toute la création qui, par lui, est aspirée vers le ciel.
Mon chien me conduira-t-il au paradis? C'est le titre de votre livre, point d'interrogation, paru aux éditions du Cerf. On fait une courte pause et puis on va finir cette émission. Ça sera ma question, faut-il qu'on ait tous un chien ou pas? Et puis dans votre conclusion, vous nous proposez une manière d'aller nous balader avec notre chien. On en parlera pour finir, pour faire atterrir le sujet un peu plus dans la vie de tout à chacun.
Emmanuel Pella.
Mon chien me conduira-t-il au paradis, point d'interrogation. C'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui par hasard nous rejoindraient. Et pardon pour les autres, nous sommes toujours en direct de Lourdes avec Xavier Lepinet, religieux dominicain et auteur d'un ouvrage du même nom paru aux éditions du Cerf. Alors, on ne peut pas dire que votre propos est planant hein, ou alors vole... Enfin, il est très profond, mais disons qu'il est très incarné. Mais quand même, à la fin de cette émission, on va essayer de l'incarner encore plus. Ce qui peut venir en vous écoutant, comme on va dire question introductive, faut-il tous avoir un chien, du coup ?
Alors après, on a des tempéraments différents. Hein. Il y en a qui sont plus chats. D'ailleurs, beaucoup me disent « Et les chats ?» Donc, il y a pas de chat dans la Bible. Ça, c'est, alors, je pense que c'est une réaction face aux Égyptiens, qui, eux, avaient un peu idolâtré le chat. Hein. Donc, on ne voulait pas idolâtrer un animal. Non, on ne doit pas tous avoir un chien. Mais en revanche, il nous est tous demandé d'avoir une sympathie pour la création. Hein. Pour les oiseaux, pour... quand vous promenez en forêt et qu'il y a un écureuil qui monte sur votre épaule, chose rare, là, si vous rejetez l'écureuil en disant « Ben non, attendez, il venait chercher de la sympathie auprès de vous, parce que vous étiez en sérénité, en paix. » Donc là, il nous est tous demandé d'avoir un regard contemplatif et amical envers les animaux. Ça, sans aucun doute.
Amical, fraternel ou c'est forcer le trait?
Ben, non, fraternel, non. Louis, sois-tu mon Seigneur pour notre pour Frère Soleil, pour Sœur Lune.
Mais on n'en est quand même globalement pas tous là. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est que c'est un chemin qu'il faut résolument essayer d'emprunter. Quand justement, à de prime abord, on peut question. Trouver que la voisine qui a une relation très forte avec son chien est un peu paumée pour être...
Je dirais qu'il ne faut pas la chercher parce que ça nous sera donné.
Je ne dis pas que c'est ce que je pense, mais voilà, je me permets de rapporter ce qu'on peut...
Non, bah, il peut même y avoir une forme de jalousie en disant bah, comment elle fait avec son chien. Il y a quelque chose effectivement d'une commune... Son chien arrive à faire avec elle ce que moi, je n'arrive pas à faire avec elle, par exemple. Hein. Donc là, il peut y avoir une forme de... profonde de jalousie ou de peur en disant bah, tiens eux ils ont l'air de bien s'entendre hein, comment font-ils un animal c'est un don hein, c'est pas un dû c'est et comme dit c'est vraiment l'harmonie du paradis retrouvée hein, c'est je donne un exemple c'est encore un exemple franciscain mais dans le cœur de tout dominicain il y a un franciscain qui gambade François d'Assise le jour de Noël donne deux bottes de foin aux ânes en disant c'est Noël pour tout le monde hein. Et je trouve ça assez bien vu. C'est-à-dire que, vous voyez, de ne pas cantonner notre vie religieuse à l'Église telle heure, et cela ne concerne pas la création. Non, le jour de Noël, double ration. C'est la fête pour tout le monde, l'incarnation. C'est-à-dire Dieu fait homme, c'est extrêmement important. Luc chapitre 12, c'est « Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous, or pas un seul d'entre eux ne tombe, sans que mon père n'en tienne compte. » Tous les oiseaux du ciel, le Père les connaît. Je vous rappelle que c'est Dieu le Père créateur. Et nous, on serait ingrats de ne pas prendre cela en compte. C'est-à-dire, tout a du sens. Ce n'est pas la nature, c'est la créature, hein, la création. Hein. Et le pape François fait cette remarque, je pense, très, très profonde. C'est la création, ce n'est pas la nature, ce n'est pas exactement la même chose. La création, c'est... donner, c'est un cadeau, il y a quelqu'un derrière. La nature, c'est une forme d'altérité, de choses où il n'y a pas de symbiose, il n'y a pas de vie commune.
Le pape François a aussi une expression dans Laudato Si qu'on cite très souvent à cette antenne, c'est « tout est caresse de Dieu ». Est-ce que c'est une manière aussi de découvrir, quelque part, la tendresse de Dieu que de découvrir la tendresse de certains animaux, comme celui du chien ?
Alors, bah, c'est un poète, hein, notre pape François. Il s'appelle François, c'est aussi pas un hasard s'il y a cette sensibilité qu'il avait ou qu'il a reçue hein, par son nom à la création. Ben, c'est très beau, hein, toutes les caresses de Dieu, c'est là où on voit dans le monde un chaos, lui, il va dire tout, tes caresses de Dieu, c'est-à-dire tout a du sens, la providence. Moi, je ne suis pas loin de le penser, même si c'est aussi un chemin spirituel, que la réalité change aussi beaucoup de la façon dont on la regarde. Hein, et on peut passer à côté de superbes rencontres. Et je trouve que Lourdes, d'où nous parlons, est un lieu merveilleux pour accueillir l'inattendu, accueillir les caresses de Dieu dans ce qu'on n'avait pas prévu. Hein, là où on bétonne son affaire parce qu'on a peur, parce qu'on a peur de manquer, etc. Là, à Lourdes, ben, les bonnes personnes viennent nous voir au bon moment.
Allez, on finit par cette balade que vous proposez dans votre conclusion. Alors, concrètement, comment me promener spirituellement avec mon chien? Vous posez cette question. C'est en plusieurs étapes. Alors déjà, on a un chien, on part du principe, on va se promener. Première chose, si j'ai bien compris, il s'agit de faire en sorte de faire en toute simplicité et vérité le point là où j'en suis dans ma vie. C'est une promenade existentielle.
Oui, mais toute promenade est existentielle. Hein. C'est les philosophes qui nous ont fait remarquer. Il y a beaucoup de livres sur la marche qui sont parus ces 10 dernières années, sur l'acte de marcher. Quand on marche, qu'est-ce qui se passe? Et les philosophes disent, marcher, c'est mettre son identité en mouvement. C'est-à-dire, on lâche son repère, qui est la maison, on est dans un endroit plus ouvert, et on se met en mouvement. Donc, en fait, la promenade, c'est un acte existentiel où l'esprit déconnecte ou se reconnecte, où est beaucoup plus à l'affût de ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur, où il n'est pas dérangé, a priori, donc il ne faut pas faire sa promenade avec le téléphone à la main, prêt à répondre au cas où. On laisse la vie advenir comme elle viendra. Et donc, dans cet état d'esprit, nos animaux, eux, le sentent. Hein. Je suis malheureux, entre guillemets, hein, quand je vois des gens promener leur chien avec des écouteurs aux oreilles. Je dis, quel est l'intérêt? Au contraire.
Donc il faut suivre son chien quelque part, ouais, et être un peu dans la même attitude, ouais, que lui, c'est ce qu'on entend.
Ouais. Et lui-même attend ça de vous. C'est-à-dire
sortir parce que ça nous fait plaisir, être attentif au réel.
Exactement.
Et puis y aller, c'est exactement. Généreusement.
Oui, mon titre. Mon chien me conduira-t-il au paradis? J'utilise une image à la fin, je dis, c'est comme les chiens de traîneau. C'est eux qui nous tirent, mais c'est nous qui savons où nous allons. Donc, la promenade avec son chien, c'est lui qui est devant, généralement. Il peut arriver qu'on tire un chien, mais c'est assez rare. Donc, il va devant, mais il sait que c'est vous qui connaissez le but. Donc, si vous voulez, la promenade, c'est un peu un raccourci de la vie. C'est une marche vers quelque part, un but, et l'animal est devant, mais en même temps, il vous suit.
Donc, au milieu de ça, vous proposez de quelque part de... pas de profiter, mais en poussant la logique qu'on a entrevue au long de cette émission, qui est de se dire que le chien n'est pas là par hasard, voire même qu'il est un signe pour nous de Dieu, ou qu'il nous renvoie à Dieu, c'est d'y mettre un peu de spirituel. Alors, vous proposez trois étapes, quelque part de penser à faire un petit retour sur soi, de marquer un temps d'arrêt et de soigner le retour. Est-ce que vous pouvez vous arrêter sur ces trois points?
Oui. Donc de faire sa promenade, vraiment de se mettre en relation avec là où on en est actuellement, heureux, malheureux, mais en vérité, hein, de ne pas jouer son existence, mais de la regarder telle qu'elle est. Et comme dit, le regard du chien, lui, il ne s'y trompe pas, hein, donc il voit bien où vous en êtes. Donc avoir son chien à ses côtés peut me permettre à moi de dire, en fait, où j'en suis là. Hein. De marquer un temps d'arrêt. Alors là, c'est un peu audacieux, c'est un peu une expérience que je propose aux lecteurs et aux auditeurs. C'est au moment de la promenade, mettons au milieu, dans un endroit qui est beau, c'est encore mieux, donc avec un paysage, etc., au pied d'un arbre, de dire par exemple l'Angélus. Hein, donc je donne la prière de l'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie, ou notre Père, et de regarder, ou plutôt de laisser faire votre chien à ce côté. C'est l'expérience que je propose. Le chien verra que vous n'êtes pas le même, que vous êtes tourné à ce moment-là vers le bon Dieu. Et j'avoue avoir eu des témoignages par lettre assez troublants, en fait. Les chiens perçoivent les hommes en prière. Donc vous devenez un petit saint François d'Assise. Là, pendant.
C'est des lettres que vous avez reçues depuis que vous avez écrit le livre?
Oui, des lecteurs qui m'ont dit, bah, écoutez, c'est exactement ce que j'ai vécu. Au cours de ma promenade, mon chien m'a dit des choses vraiment très étonnantes. C'est le chien percevant l'homme en acte de prière. De même que je dis au tout début du livre, écoutez, bonne lecture, je vous conseille de vous mettre dans un fauteuil. Il y a votre ange qui est à côté, vous ne le voyez pas, mais je vous assure qu'il est là. Et puis, si possible, qui est votre chien? Et il verra qu'on parle de lui là, pendant la lecture. Donc, ce temps de prière où l'homme est tourné vers Dieu, ne vous inquiétez pas si la Sainte Vierge vous apparaît, votre chien, elle s'en occupera, si je puis dire. Et le temps du retour, c'est-à-dire, forcément, on n'est pas le même entre le début d'une promenade et la fin d'une promenade. Sinon, ça n'a aucun intérêt de se promener. Et donc, être attentif au changement de cœur, d'âme, qui s'est fait entre le début de la promenade où je suis parti avec du stress ou je ne sais quoi, le milieu de la promenade avec mon chien, moi me tournant vers mon créateur, Dieu, le bon Dieu, et au retour. Et vous ne serez plus le même, et vous serez encore plus, encore moins le même, si votre chien vous a accompagné, parce qu'il aura accompagné le mouvement, la conversion, hein, et il va battre la queue du côté droit, si vous voulez. Ça sera, on va dire que ça va être
le chef d'orchestre.
Pas le chef d'orchestre, c'est ça sera le garant que ça sera une bonne promenade.
Vous dites aussi, vous citez Jean Rodin, lieu, c'est voilà, fondateur du Secours catholique.
Un fou de chien, là.
Qui a passé beaucoup de temps à Lourdes aussi. Lui, il dit carrément, il faut écouter votre chien.
Oui, il faut écouter votre chien. Alors, il y a une...
Habitué au langage des livres, habitué aux photos des journaux, habitué aux images de télé, nous avons le cerveau garni, le cœur tapissé par l'artificiel. Oublions tout cela, regardons et écoutons. Allez dans une prairie, cueillez les fleurs des champs, respirez l'air des montagnes, essayez de regarder les lézards et d'écouter votre chien.
Oui. Donc,
ça prouve qu'il en avait fait l'expérience lui-même.
Oui, oui, non, c'est un fou de chien. Il y a plein de photos de lui avec des chiens. Et il raconte cet épisode. Il rentre dans un bar où tout le monde lui fait la gueule, si je puis dire. Le barman, la serveuse, les clients, personne ne lui parle. Il dit, je rentre avec mon chien. La serveuse a un bon sourire, comme le chien. On me demande c'est de quelle race. Bref, tout le monde est... Il dit, mon chien était un public relation d'exception. Et il utilisait beaucoup son chien pour rentrer en contact.
Alors, il me vient peut-être une dernière remarque. Je le présenterai comme une remarque, mais vous, évidemment, prenez-la comme une question. C'est que je reviens à cette étude là de Jean Rollin, c'est ça, hein, oui, ce journaliste, oui. Donc
journaliste écrivain.
Voilà, qui a mené une enquête. Un chien mort après lui dans son livre. En tout cas, il rapporte donc cette enquête qui laisse entendre que quand on suit un chien errant, on arrive toujours à un pauvre. Est-ce à dire en fait que le chien aurait particulièrement parmi les autres créatures en fait cette fonction pour chacun de nous révéler le pauvre que l'on est?
Ah, très belle question, très très belle question.
Parce que c'est quand même souvent c'est le regard du chien est compatissant. En tout cas, oui. C'est comme ça qu'on le prend.
C'est une très belle question. Je vous remercie. Donc, je ne saurais mieux dire. C'est-à-dire, je pense que c'est très intéressant de voir la fragilité de l'homme. Donc, c'est paradoxal parce que on attend d'un maître, d'un point de vue humain, que le maître soit surpuissant.
Mais c'est en général comme ça parfois que les maîtres se comportent aussi.
Oui, et ils jouent le maître en fait. Et alors qu'il faut être homme, il faut pas avoir honte d'être fragile. Hein. Et son chien, aussi maître, surpuissant peut-on paraître, mettons un homme qui est un tempérament plutôt conquérant, dominateur, etc. Il peut aller mal, il peut être malade, hein, ne serait-ce que s'il est touché par la maladie. Eh bien, son chien ne va pas l'abandonner pour autant, voyez. Et ça va être très troublant, hein, de voir que même sans la grosse voix, sans le... le chien va rester quand même proche de son maître. Mais c'est une très bonne question. Est-ce que ce n'est même pas ça qui... cette forme d'amitié profonde entre un animal et moi, dans toutes mes composantes, est-ce que c'est pas ça qui fait le charme de la relation homme-chien? C'est intéressant, très intéressant.
Merci beaucoup Xavier Lepinet de nous avoir pris par la main. Je rappelle que nous sommes depuis Lourdes, que vous pourrez croiser encore Xavier Lepinet. Il faudra juste le reconnaître parmi tous les hommes en blanc. En tout cas, vous pourrez trouver son ouvrage à la librairie religieuse de Lourdes, comme dans toutes les bonnes librairies religieuses de France et de Navarre. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, « Mon chien me conduira-t-il au paradis ?» Cet après-midi, vous donnez aussi une conférence, c'est à 14h, salle Monseigneur Théas. Dans le sanctuaire 14h, salle Monseigneur Théas, et votre livre, une dernière fois, « Mon chien me conduira-t-il au paradis ?» ?, paru aux éditions du CERF. Merci.
Merci de votre écoute.
À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.